Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine et nous avons deux magnifiques invités aujourd'hui pour cette émission. Et nous sommes même dans un endroit absolument formidable, une super belle cuisine. Un beau salle à manger avec même des fraises et des chocolats et verres d'eau et une magnifique bibliothèque. Mais ce sont les personnes que je veux vous présenter. Madame Ghislaine Patry-Buisson, merci d'être avec nous à la question d'aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Et Marie-Claire Nadeau, merci d'être là avec nous.
Et merci beaucoup de nous inviter.
C'est un thème que j'avais, c'est un documentaire, Le voir, juger, agir, l'histoire de la JOC au Québec, réalisé par Annie Deniel et produit par André Vanasse, de la coopérative Funambule Média, qui va être bientôt, très bientôt, et jusqu'en mai, en tout cas, disponible, en tout cas, pour visionnement dans différents endroits au Québec. Et Ghislaine et Marie-Claire, je me permets de vous appeler par vos prénoms, si ça va bien pour vous.
Absolument. Ça va bien.
Merci. Vous êtes des témoins privilégiés de cette histoire de la JOC, donc la jeunesse ouvrière catholique, donc ces jeunes ouvrières et jeunes ouvriers qui ont amélioré grandement cette société québécoise. Et cette histoire-là, on la raconte. Alors, je commence avec vous, Ghislaine Patry-Buisson.
Oui.
Comment vous êtes arrivée à la JOC?
Oui. Moi, je suis de la Chute. Et la façon que je suis ancrée à la JOC, c'est que la JOC organisait une série de rencontres, 10 rencontres. On invitait des jeunes filles, ça s'appelait « Préparation à l'avenir ». Alors, il y avait chaque semaine, c'était un sujet différent. Et puis, ils nous parlaient entre autres de la nécessité de se syndiquer, donc ils nous faisaient parler de nos conditions de travail, bon, beaucoup de choses, la santé, de s'occuper de notre santé, puis ça. Puis au bout de 10 semaines, ben là, ils nous ont parlé d'engagement.
De l'engagement,
puis si on voulait faire quelque chose pour aider les jeunes, puis c'est là que je suis devenue jociste.
On appelait ça jociste.
C'est là que je suis devenue jociste, oui.
Mais vous aviez quel âge? Est-ce qu'à ce moment-là, vous travailliez dans une
jociste? J'avais à peu près 17 ans. Je travaillais, moi, dans un magasin à la Chute, là. J'ai toujours travaillé dans des magasins de meubles, dans le bureau, pas pour vendre des meubles. À un moment donné, c'est sûr qu'il y a un propriétaire, là, il avait voulu que je vende des appareils électriques, mais il dit, après tout, c'est les femmes qui se servent de ça, pas les hommes. Il dit, j'aimerais ça qu'il y ait une femme. Mais moi, ça me tentait pas de vendre ça. J'ai changé de place. Mais c'est ça. Alors, depuis l'âge de 17 ans, j'ai été impliquée beaucoup à la JOC. Et ces dernières années, je suis revenue.
Vous êtes revenue, c'est-à-dire?
Ben, avec la Fondation. Je me suis impliquée avec la fondation. Quand il y a eu la fermeture, là, il fallait quand même voir ce qu'on faisait avec l'argent qui restait.
Donc, la fermeture de la JOC.
Oui, et puis là, c'est là que j'ai rencontré Claire, Marie-Claire. Mmh. Oui, et puis on est devenus de grandes amies, évidemment, à travailler ensemble. Alors, c'est comme ça, et on a fait du gros travail. On a eu de grosses sections à la Chute. Beaucoup, beaucoup.
On aura l'occasion de revenir. Marie-Claire Nadeau, vous êtes aussi une jociste.
Absolument, absolument.
Hein, une jociste. Et comment vous êtes venue à faire partie de ce mouvement qui a transformé le Québec?
Et qui a transformé ma vie aussi.
Qui a transformé votre vie. Alors, racontez-nous ça, Marie-Claire.
Et moi, je suis entrée sur le marché du travail comme ça à 16 ans, là, mais j'avais eu la chance de finir mon secondaire parce que j'étais pas mal volée à l'école. Mais en entrant sur le marché du travail, j'étais comme déconcertée, perdue un peu à Montréal. Je me disais, est-ce que toute ma vie, je vais juste faire ça, rentrer le matin, puis puncher ma carte, puis sortir le soir, puis rien d'autre? Ma vie était vide et le travail ne remplissait pas. Dans le fond, à l'école, j'avais été très active. Alors, comme ça, sur la rue, je rencontre une amie. On était allés à l'école ensemble un petit bout de temps. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je m'ennuie terriblement. Je peux pas croire que je vais être une carte de punch toute ma vie. Je disais ça comme ça. Ben, elle dit, viens avec nous, on a une équipe de JOC à Saint-Stanislas, elle dit, la paroisse, puis, viens faire des activités, tu vas aimer ça. Alors, je n'ai jamais décollé de la JOC, j'étais là de 62 à 75, comme il faut, puis comme Ghislaine, on s'est retrouvés en 2020, quand les gens de la JOC nous ont demandé d'aller donner un coup de main pour fermer la fondation de la JOC.
Ghislaine, je continue avec vous, Ghislaine Patry-Buisson. Qu'est-ce que ça fait d'être jociste quand vous avez, donc, vous êtes jeune adulte,
oui.
À la fin d'une certaine adolescence? Je ne sais pas si dans votre génération, on parlait d'adolescence, mais vous êtes donc jeunes adultes et vous devenez donc membre de la JOC. Qu'est-ce que vous faites concrètement comme membre?
Nous autres, on a une réunion de l'exécutif. On a un exécutif à chaque semaine. On se rencontre. Et c'est toujours dans les sous-sols d'église. Hein? C'est ça. Avec ça, on apprend beaucoup à diriger des réunions, organiser des groupes. On a des chefs d'équipe. Pour, par exemple, chaque s'occupe des loisirs, l'autre décide de ça. On avait un petit journal, parce qu'à un moment donné, moi, je suis arrivée là, mais à un moment donné, j'ai fondé la JOC des garçons.
Ah bon, ben là, vous nous racontez ça. Est-ce que vous vous souvenez un peu dans quelle période?
Oui, parce qu'on était un beau groupe de filles là, dans la JOC, puis il y a des garçons qui nous voyaient, puis on dit, on aimerait ça nous autres aussi. On aimerait ça, nous autres aussi, faire partie de la JOC. Alors, je suis allée à Montréal, à la centrale de la JOC. J'ai rencontré Jean-Paul Létu, qui était propagandiste, qui est devenu d'ailleurs président de la CSD. Alors, j'ai demandé de venir à la chute pour partir de la JOC des garçons. Il dit, on n'a pas le temps, on a ci, on a ça. Quand je suis revenue, j'ai dit ça au gars, ben j'ai dit, moi, je vais vous partir. On va la partir. C'est moi qui ai débuté les réunions avec les garçons. Mais ça n'a pas été long. Hein? C'est des gars qui avaient fait leur 11e, 12e année.
Ils ont pu prendre ça en main.
Ces gars-là étaient quand même plus scolarisés. Là. Et puis, c'est comme ça que la JOC de la chute a pris une grande, grande dimension. Et on a fait beaucoup de choses. Oui, entre autres, d'ailleurs, probablement qu'il va y avoir une présentation du film à la chute parce que c'est la JOC qui a fondé la bibliothèque de la chute.
C'est la JOC
oui.
qui a fondé, donc oui. la Jeunesse ouvrière catholique, qui a fondé la bibliothèque.
Oui, ben c'était...
C'était un des fruits, donc c'était un fruit de votre action. Oui. De fonder une bibliothèque.
Parce qu'on essayait de trouver des activités pour les jeunes travailleurs, les jeunes travailleuses. Puis je jasais avec un des gars, je me souviens, c'est André Cahier. Et puis, il lisait beaucoup. Il était abonné à un set de livres, là, je ne sais pas trop. Puis il me racontait, tu sais. Puis chez nous, on lisait beaucoup. Fait que, ben, j'ai dit, écoute, il n'y a pas de bibliothèque à la chute. Il y avait des bibliothèques à l'école, mais quand on a fini l'école, il n'y en a plus. Il y avait un magasin qui vendait un peu des livres, mais c'était un magasin de bureau, là. Il vendait des articles de bureau. Ça fait que, ben, j'ai dit, pourquoi on ne partirait pas à une petite bibliothèque, commencer par chercher des livres ici? Aussitôt dit, aussitôt fait. Hein. Il a réuni, son père était garagiste, alors il a pris un camion. Ils ont tout annoncé dans le journal. À l'église, le curé a annoncé la date qu'on faisait une levée de livres.
Une levée de livres.
De livres, oui. Et puis, on avait une équipe qui travaillait là-dessus, qui examinait les livres, là. Et puis, c'est ça. Puis finalement, il y en a un monsieur qui, lui, il n'a jamais voulu faire partie de la JOC, parce que c'était un technicien, puis il trouvait qu'il était pas oublié. Mais il nous a toujours, il a toujours été dans notre groupe. Et puis, c'est lui qui s'est occupé de la bibliothèque. Il continuait à ramasser des livres. On avait un local. Vérifier les livres, puis les réparer s'il y avait lieu, là. Puis tout enregistrer ça, les classifier. Elle faisait ça comme bénévole, puis il y avait d'autres filles aussi qui faisaient bénévole. Finalement, c'est devenu assez gros que c'était plus possible qu'une personne fasse ça bénévolement. Là. La Chute a pris la
relève. La ville de La Chute a pris la relève de votre initiative de bibliothèque de La Chute.
C'est... Puis ma mère a été une des premières personnes engagées.
En plus.
Parce qu'ils ont ouvert des postes. Hein? Oui. Et puis, oui, ils ont ouvert des postes. Et puis, là, le maire de La Chute qui a dit, « Hey, t'as assez travaillé à la bibliothèque, postule. »
C'est un très bel exemple. Oui. Et il y en a sûrement d'autres. Marie-Claire Nadeau, vous, de votre côté, pouvez-vous plus nous détailler, parce que le titre du film, c'est « Voir, juger, agir », c'est la méthode, c'est la pédagogie de la JOC. Mmh. Et comment ça se vivait dans une équipe, dans un groupe? Comment ça se passait? Là, parce que, d'abord, le voir, qu'est-ce qui était regardé?
C'est beaucoup, beaucoup. Le voir, juger, agir, c'était la méthode fondamentale là, de la JOC. C'est sûr que fondé la JOC, Joseph Cardin, le père de la JOC, avait mis ça déjà au départ.
En Belgique, en 1925.
Oui. Alors qu'au Québec, c'est arrivé en 1932 avec le père Henri Roy des Aublats qui a importé la formule et le dynamisme et la vocation. Alors, le voir, juger, agir, alors, on s'est, comme moi, là, dans la paroisse où j'étais, à Saint-Stan, on se réunissait, puis là, on regardait dans notre semaine, un peu, je pense que Ghislaine l'explique bien dans le film aussi, on regardait dans notre semaine quels sont les faits, qu'est-ce qui s'est passé dans notre semaine, y a-t-il des choses qui nous ont frappés à notre milieu de travail, dans notre famille, dans notre quartier.
Ça dépassait le milieu de travail.
Oui,
donc, ces jeunesses ouvrières catholiques, mais c'était toutes les dimensions de la vie qui étaient regardées.
Absolument. Exactement. Ouais. Les fréquentations, tout ce qui était l'amitié, les loisirs, beaucoup. Je voulais juste compléter avec l'exemple de Ghislaine tantôt. Dans beaucoup de petites villes au Québec, je pense à Plessisville, à Victoriaville, les services de loisirs ont été mis sur pied d'abord par les équipes de JOC.
Qui s'occupaient loisirs des jeunes.
Loisirs, parce que les jeunes travailleurs à l'époque, en quittant l'école ou au primaire, en 9e, ou dans le fond, jusqu'à temps qu'ils se marient, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien qui existait pour cette catégorie. Donc, la JOC les rassemblait, regardait les profs. Je vais revenir au fond, je vais agir, OK?
On ne l'oublie pas, effectivement. Continuez.
Mais dans le fond, il n'y avait rien, donc il fallait qu'ils voient, c'était quoi la problématique? Les jeunes s'ennuyaient, il n'y avait rien à faire d'autre que d'aller au bar, peut-être, s'il y en avait un, s'il y avait de l'argent,
pour payer la bière.
Voilà. Mais là, la JOC regardait ce problème-là. C'est quoi le problème des loisirs? Ben là, il faut des solutions. Donc, il faut organiser des loisirs. Eux, ils ont organisé une bibliothèque parce que il n'y avait pas de livres qui circulaient. Dans d'autres villes, ça a été un terrain de baseball, ça a été un aréna. Les filles à Montréal, moi, dans des équipes autour de moi, ils ont organisé les filles voulaient jouer au hockey, fait qu'on organisait des équipes de hockey de filles. Maintenant, c'est très populaire, puis on pense que ça vient d'arriver. Mais en 65, ça existait. Mmh. Alors, c'est le voir, c'est quoi les situations qu'on vit? Où est-ce qu'il y a un problème? Ça, c'est le voir. On le nomme, on l'identifie. Est-ce qu'on est les seuls à les voir? Non, il y en a d'autres autour de nous. Telle fille, à mon milieu de travail, est partie en pleurant parce que le contremaître l'a écœurée. Puis bon, alors, il y en a-tu d'autres? Il y en a-tu d'autres milieux de travail? Ça, c'est le voir. Le juger, de quoi ça dépend? Pourquoi c'est comme ça? Comment ça se fait qu'un contremaître, ou comment ça se fait qu'il n'y a pas de loisirs dans notre quartier, ou comment ça se fait qu'un contremaître dans un milieu de travail peut dominer les travailleurs de cette façon-là, les insulter, manquer de respect? On pouvait même pas aller aux toilettes quand on voulait, il fallait demander 3 heures d'avance.
On a l'impression que vous nous racontez quelque chose qui se vit dans le tiers-monde,
dans d'autres pays, mais ça se vivait dans les années
30, 40, 50.
Oui, c'était la domination. 60. Du... Alors, tout ça, on faisait le juger. Alors, de quoi ça dépend? On n'est pas tout seul, il y en a d'autres qui vivent ça. De quoi ça dépend? Qu'est-ce qu'on fait pour changer la situation? Oui, moi, je peux me changer en me disant, ben, je vais être plus solide, puis je vais moins m'en faire quand quelqu'un va m'insulter. Mais en même temps, il faut changer la cause. Il faut agir sur la cause. Donc, on arrivait à l'action. Alors, dans un milieu de travail, c'était soit qu'on on arrête de travailler et on se croise les bras jusqu'à temps qu'on soit respecté. Dans un milieu de loisirs, c'est-à-dire, est-ce qu'on organise un service? Dans les fréquentations, par exemple, Justine pourra en parler encore plus que moi, mais tout le problème des fréquentations gars et filles, puis la préparation au mariage, ça a été quelque chose de très important dans la JOC. Ça l'a mis sur pied, le service de préparation au mariage. Parce que les jeunes, il y avait... Où tu pouvais parler de... Ben, tu sais, je suis en amour, puis là, on va se marier, mais on va se marier comment? Puis on va faire quelle sorte d'union? Puis on réfléchit.
Avec toutes ces questions-là, qui fait que la JOC a pu vraiment se donner les moyens, parce que c'est les jeunes...
Entre eux
qui trouvent les solutions.
Par eux, pour eux.
Exactement. Ouais,
ça, c'était une des méthodes. C'est une des méthodes pédagogiques. On avait une ligne, voir, juger, agir. On avait des outils. Puis ça, c'était tout le monde, hein, on les connaissait. Entre eux, par eux, pour eux. C'est nous qui vivons le problème, c'est nous qui allons le régler, avec d'autres, évidemment. Formation par l'action, par exemple. Alors, c'est toutes des méthodes qu'on a apprises, puis qu'on a... C'est pour ça qu'on dit que la JOC était une école.
À question d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Ghislaine Patry-Buisson et de Marie-Claire Nadeau. Et justement, le documentaire « Voir, juger, agir, l'histoire de la JOC au Québec » nous donne l'occasion de rencontrer ces deux jocistes, toujours de cœur, si je comprends bien.
Oui, oui.
Toujours de cœur. Vous avez parlé du « Voir, juger, agir », des jeunes, avec les jeunes, pour les jeunes.
Entre jeunes.
Entre jeunes. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Et je pense que vous étiez les... Je pense que c'est la JOC qui a vraiment commencé ça. Vous faisiez des enquêtes, c'est-à-dire que vous êtes allé chercher des enquêtes. Alors, Ghislaine, j'aimerais vous entendre là-dessus.
Oui, l'enquête importante sur laquelle j'ai travaillé, parce qu'il faut dire qu'à la JOC, on avait aussi ce qu'on appelait la jeune JOC. Ça, c'était les jeunes de 13 à 17 ans. Et puis, on avait fait une enquête auprès des filles. C'était des filles qui travaillaient dans des usines, travaillaient dans des restaurants.
À 13, 14, 15 ans.
Oui, 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 absolument. 459 réponses qu'on a eues.
459 réponses.
On a fait la compilation de ça. Et on s'est aperçu parce que l'âge obligatoire était 14 ans.
Pour aller à l'école?
Oui, c'était 14 ans. Toutes les autres provinces avaient 15 ou 16. On était les seuls avec 14 ans. Alors, ces petites filles-là, il y en avait qui avaient laissé en sixième année, là. Elles laissaient pas en septième année. Alors, ces petites filles-là, on avait besoin de travailler avec eux autres, là.
Elles étaient en usine, elles étaient ouvrières ou dans, oui. Travaillaient, en tout cas, dans.
Oui, oui.
À 14
oui,
ans,
oui.
Elles travaillaient, là.
Oui. Oui, oui, oui. Et puis, voyez-vous, c'est ça, l'école est obligatoire jusqu'à 14 ans, mais pour travailler, par exemple, à l'usine, pour travailler à les maisons privées, tu n'avais pas de permis, mais en bas de 16 ans, pour travailler à l'usine, tu avais besoin d'un permis. Combien de ces jeunes-là avaient leur permis de travail?
Vous avez fait une enquête là-dessus, c'est ça?
Ben, ça faisait partie de l'enquête, hein? Alors là, on a sorti ça, puis on a révélé ça, puis c'est là qu'on s'est aperçu aussi que il y avait pas beaucoup de d'ouverture pour les filles, hein, et ça a été l'occasion de regarder toute la discrimination. Les gars avaient l'école de métier, il y avait le séminaire, il y avait les filles qui voulaient faire un cours classique, c'était absolument exceptionnel. Puis les filles qui avaient de l'argent, ben, ils étaient dans des couvents pour préparer des femmes qui allaient marier des grands professionnels. Puis nous autres, ben, on avait... il y en avait qui étaient infirmières. Mais pour être, par exemple, pour être institutrice, là, c'est pas une grande scolarité, là. C'est pas une grande scolarité. C'était des petites filles qui enseignaient. Elles commençaient à enseigner à 17-18 ans. Alors, il y avait aussi pour les filles l'école ménagère qui avait été fondée par Monseigneur Tessier. Et ça, c'était pour apprendre aux filles à bien entretenir une maison, à être une bonne maman, à être une bonne épouse, à faire du bénévolat, des choses comme ça. ça préparait pas. Quand tu sortais de là, ça préparait pas à rentrer sur le marché du travail. Alors, on avait dit, faut arrêter ça. C'est beaucoup de ces choses-là qui ont servi aussi à la commission parents. Parce qu'on dénonçait la discrimination. Les garçons à l'école étaient tellement mieux organisés que nous. T'sais? Alors...
Ça a été une action importante là, de la JOC. Là. Hmm? Ça a été une action importante,
très importante
de la JOC.
Oui,
très
oui,
importante,
oui,
parfait.
Oui. Il y a d'autres cas. Il y a d'autres cas qu'on pourrait vous donner à la suite d'enquête là, aussi. C'est pas la seule.
Mais c'est un apport extrêmement important.
Oui.
Marie-Claire, je vais de votre côté. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'être jociste, d'être dans la JOC? Vous avez été une dizaine d'années active
oui,
dans la
oui,
JOC,
très,
à peu près.
Très, active, oui.
Très, très active.
Oui,
hein?
j'étais comme Justine. J'ai fait tous les niveaux, là, le local, le régional, le national, et même je suis allée à un congrès international en 69. Donc, la JOC, ça m'a vraiment appris, ça fait ce que je suis devenue. Là. Ça a été mon école de vie, comme dit Lucie, d'ailleurs, dans le documentaire, c'était notre université. C'est là qu'on a appris à analyser des situations et à les transformer pour les rendre plus dignes, pour respecter la dignité des gens. Alors, la JOC, ça m'a appris vraiment, et je le dis aussi, là, à avoir l'espérance de changer, de pouvoir changer le monde.
Avoir l'espérance de changer le monde.
Oui, oui. Puis, pas changer, là, juste un rêve, là. Mais réellement, bon, puis les actions qu'on a menées, Ghislaine en donne quelques-unes, là, mais juste la participation de la JOC, par exemple, d'une délégation de la JOC, Denise Gauthier, qui a été membre d'un des comités sur la formation professionnelle à la commission parents, a fait que les filles ont maintenant une formation professionnelle plus étendue, plus large. Tous les métiers peuvent donner accès aux femmes.
Oui, c'est ma génération qui en a bénéficié.
Absolument, absolument. Alors, on a vu des changements. La syndicalisation, par exemple, tu sais, je donnerai un exemple. En 65, on a fait le rallye travail. On avait fait une enquête comme ça sur les conditions de travail. On arrive, on est à travers le Québec, on se réunit on a monté sur la montagne à l'Université de Montréal. Alors, on est allé là, on a fait une réflexion sur les conditions de travail des jeunes. Et c'est à partir de ça, les syndicalistes sont venus. Michel Chartrand était venu et nous a encouragés, mais en même temps, écouter ce qu'on avait à dire. Et c'est à partir de ce moment-là, par exemple, que les syndicats se sont dit, ben, peut-être que les jeunes, faudrait leur apporter une attention particulière dans les milieux de travail. Tu sais, c'est pas les mêmes, sont souvent temporaires et tout ça. Alors,
le temps file dans cette émission Question d'aujourd'hui. Vous avez donc participé à ce documentaire « Voir, juger, agir, l'histoire de la JOC ». Qu'est-ce qui est important pour vous? Pourquoi vous avez accepté de participer? On va voir sur grand écran pourquoi vous avez accepté de participer à ce documentaire.
Bien, nous, quand on faisait une bonne action, quand on réussissait, on était fiers de ce qu'on réalisait. On était fiers de ce qu'on réalisait. On participait à quelque chose. Hein? Et puis, ça nous a ouvert tellement les yeux sur des problèmes, sur la société. On était sensibilisés à la politique, pas juste au syndicat. Hein? Et puis, moi, c'est pas pour rien que je suis arrivée à la Fédération des femmes du Québec. J'avais la discrimination dans l'éducation, là. Les écoles étaient séparées. C'était des écoles de filles, des écoles de gars. Maintenant, c'est mix. Les cégeps, ça a quand même aidé beaucoup les filles. Les filles ont un cours, peuvent aller à l'université et tout ça. Alors, normalement, on sentait notre vie avait un sens, tu sais. Pour mon travail, là, ce que je faisais au magasin, là, je m'en foutais. Parce que quand il y avait un congrès de chef, quand il y avait des vacances, je demandais mon congé. Puis comme on travaillait le samedi, puis que j'étais devenue, j'avais beaucoup de responsabilités, j'avais dit à mon patron, comme je travaillais le samedi, ben je suis allée de demander des congés le samedi pour aller à mes réunions. Alors, j'ai dit, je ne vais plus travailler le samedi.
Et vous l'avez
accordé.
Et vous l'avez accordé parce que vous connaissiez vos droits grâce à la JOC. Je vais terminer avec vous, Marie-Claire. Donc, le documentaire va être disponible, va être diffusé. Il s'agit d'aller sur le site Funambule Média pour avoir toutes les dates. Il va être il va être à Québec dans la première semaine d'avril. Il va être aussi à Montréal et dans d'autres villes. Qu'est-ce que vous souhaitez? Pourquoi vous souhaitez que les gens aillent voir ce documentaire?
Deux raisons, peut-être. La première, c'est que je pense que c'est important que tout le monde, que les plus âgés comme nous se reconnaissent et que les plus jeunes reconnaissent que le Québec a changé parce qu'il a évolué, puis il y a eu la Révolution tranquille, parce qu'il y a des gens qui ont fait arriver ce mouvement-là. C'est pas juste les partis politiques, là, c'est vraiment du monde sur le terrain. Le communautaire, par exemple, l'action communautaire, l'éducation populaire, c'est toutes des méthodes que des jocistes sont allés allumer, dans le fond, dans les groupes. Il y a aussi, pour moi, c'est très important, toute la question de la dimension internationale du mouvement. Moi, c'est là qu'était ma grande découverte quand j'ai participé.
C'est vrai, c'est pas juste au Québec ou en Belgique, non, c'est dans plusieurs pays.
Partout dans les continents, le continent africain, sud-américain, même l'Asie. Alors, les jeunes vivent les mêmes situations. Et moi, quand je les ai rencontrés dans les rencontres internationales, les jeunes du sud, par exemple, des pays sous-développés, nous disaient, parce qu'on était tellement malheureux de les voir... Ils vivent les mêmes conditions que nous, mais 100 fois pire. Ils nous disaient, lâchez pas. Parce que ce que vous allez avoir au Nord, là, un jour, nous aussi, on va pouvoir. Puis ça nous donne des exemples, ça nous donne de l'espoir. Alors, c'est la grandeur de ce mouvement-là que je trouve qui est, pour son atterrissage dans le pays du Québec, puis ce qui a fait avancer puis évoluer, mais aussi pour son influence sur le monde.
Parce que je peux dire que au conseil d'administration qui devait fermer les portes, Claire et moi, on a proposé, puis il y avait aussi José, de faire un film.
José Desrosiers.
Oui, on voulait que cette histoire-là soit inscrite dans le patrimoine du Québec. On voulait, pour nous, le patrimoine, là, faut que le patrimoine du Québec ait ce qu'on a fait. C'était vraiment là une grande. On pensait pas que ça prendrait la dimension là, la portée que ça a maintenant. Il faut dire aussi que on n'a pas eu de subvention du gouvernement, rien là.
Pour le documentaire.
Non. C'est des anciens jacistes qui ont payé un peu, aussi on a eu un peu d'aide aussi des syndicats, des centrales syndicales et beaucoup des communautés religieuses.
Qui reconnaissent donc héritage histoire.
Oui.
Et c'est vous qu'on voit avec d'autres aussi, mais en fait, vous représentez dans ce documentaire des centaines et des milliers de jocistes.
Oui, exactement.
Absolument.
J'aimerais vous remercier énormément, Ghislaine, Patrie Buisson et Marie-Claire Nadeau. C'est très court, mais merci beaucoup. Et on encourage les gens à aller voir ce documentaire, voir juger agir l'histoire de la JOC. L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lisandre Duplé pour Radio VM. Merci à vous de votre écoute. Ici Renaud Grégoire et je vous dis... À bientôt.